bonjour. Oh. Bonjour. Et la mairesse elle-même veut que ce soit bonjour. Oui. Ben oui, c'est ce qu'elle a dit tantôt.
Ben écoutez, le fameux bonjour, hein, c'est comme la pointe de l'iceberg. Moi, j'essayais de trouver des images, ça me faisait penser, tu sais, quand tu dors la nuit, puis il y a un maudit maringouin qui bzzz, qui t'a... Là, tu te dis, si je peux l'attraper, je vais l'écraser. Tang! C'est ça que je ferais avec le aïe. Mais dans le fond, bonjour, aïe, c'est vraiment dérangeant, fatigant, mais le service en français semble être assuré à 96%. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que dans les commerces en général, tu peux être resservi en français. Donc, c'est pas moi cet aspect-là qui m'a inquiété. Dans la publication de ces études-là, les chiffres que je trouve les plus inquiétants, et là, sérieusement inquiétants, c'est le fait que la langue de travail diminue, le français comme langue de travail diminue. Et ça, c'est dû à la non-intervention, au laxisme effrayant du Parti libéral pendant 15 ans, qui n'ont jamais voulu, et il n'y a personne qui veut vraiment à Québec, imposer l'usage du français dans les entreprises de moins de 50 employés. La loi s'applique aux entreprises de 50 employés et plus. Mais 50 employés et moins, ils ne veulent pas. Ça veut dire qu'entre 25 et 50 employés, c'est des entreprises, c'est des moyennes entreprises, des petites entreprises. Mais c'est là, souvent, que les premiers emplois sont trouvés, soit par des jeunes, mais beaucoup à Montréal, par des gens qui viennent d'un peu partout ailleurs. Et ce qu'on donne comme message aux immigrants qu'on veut absolument franciser en les envoyant à l'école, puis ils vont passer un an à l'école, puis tu sais, ça marche pas, on l'a vu, les résultats sont clairement négatifs. Mais quand ils vont aller travailler, si le français, c'est la langue d'usage là où ils travaillent, forcément, ça va être pour eux la meilleure introduction, la façon de connaître le français. Donc, cette statistique-là, pour moi, elle est très inquiétante. Il y en a une couple d'autres sur lesquelles je reviendrai aussi.
Moi, je serais curieux de voir, justement, sur le français langue de travail, qui est un paramètre super important, je serais curieux de voir le détail de ça. Parce que là, ce qu'on a, c'est que de 2011 à 2016, c'est un recul de 2 %. Donc, 80 % des répondants, selon l'enquête de l'OQLF, là, disent que le français, c'est la langue de travail principale. Mais ce recul-là, il est dû à quoi? Pierre mentionne bon la non-francisation des petites entreprises de 50 employés ou moins. Parfait. Mm-hmm. Est-ce que ça peut être aussi parce que les compagnies se mondialisent de plus en plus? On le sait qu'à une époque, il y avait ce mythe-là, la caricature du boss qui ne voulait pas parler français, qui est un rhodésien, puis tout se passait en anglais. Et évidemment, c'était inacceptable. Aujourd'hui, si tu travailles, je sais pas, moi je pense aux gens qui sont dans l'industrie du jeu vidéo, ça se peut que ça se passe en français dans les lieux physiques, mais que dans les lieux virtuels, quand tu échanges avec d'autres parties de la compagnie ailleurs dans le monde, que ça se passe en anglais. Est-ce que c'est la même chose? Moi, je prétends que c'est pas la même chose. Et je prétends aussi que dans ce cas-là, français langue de travail, il y a une partie sur laquelle on ne pourra probablement pas légiférer. Je veux dire, tu ne pourras probablement pas envoyer tes courriels en français à tes collègues qui sont à Singapour, juste parce que la loi au Québec est en français. À moins que tu l'envoies dans les deux langues, ça peut devenir absurde. Et là, je suis encore au conditionnel. Moi, je serais curieux de voir qu'est-ce qui cause ce recul-là. Est-ce que c'est, comme Pierre dit, les petites entreprises ou c'est la réalité du travail mondialisé où les chaînes de production sont mondialisées et Montréal est une de ces parties-là qui est une nouvelle réalité?
Je pense que les deux sont vrais. Tu comprends? Quand je parle des petites entreprises, t'as pas tort. Oui. Il y a moins de petites entreprises qui fabriquent des objets. Mais c'est quand, ou, tu sais, des garages, ou des endroits de service. Mais c'est quand même là que l'autre statistique, là, 24 % des immigrants maintenant parlent anglais et n'apprennent pas le français. Parce que moi, je pense que ça, ça a un lien. Puis si on veut pas encore une fois remettre la responsabilité de l'anglicisation sur des gens qui viennent d'ailleurs, sur les minorités, il faudrait faire cet effort-là. Parce que je pense que ça, ça a eu des bons résultats. On l'a vu quand la FTQ a décidé de franciser. La raison pour laquelle il faut s'y attaquer, c'est aussi parce que le phénomène que tu décris est réel. Il y a des endroits, de plus en plus, je pense aux technologies de l'information, à tout ce qui est lié à l'informatique, où là, tu es dans un bain d'anglais et ça fait partie de ton travail. Si tu ne possèdes pas les deux langues, probablement que tu ne peux pas travailler dans cet univers-là. Et ça explique aussi pourquoi les jeunes sont beaucoup plus indifférents au français, à la bataille du français. Sauf que, quand on a
vu... Mais tu vois, j'ai vu le documentaire de Karina Marceau.
Ils sont intéressés.
C'est-à-dire que, ce qui me frappe, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés, oui. Puis, moi, la langue au sens large, la culture, là, si on veut. mais sur le besoin de maîtriser une deuxième langue.
Ils ont raison.
Et ça, c'est très clair.
Et moi, je pense qu'ils ont raison. Maintenant, moi, le besoin de dominer, de posséder deux langues, c'est incontournable. La seule chose, je pense, dont peut-être cette génération-là n'est pas tout à fait consciente, c'est que si c'est un immense avantage que de posséder deux langues, et pour posséder deux langues, le mieux, c'est d'en posséder une très bien, puis de très bien connaître l'autre. Et si tu laisses aller celle qui est quand même exigeante, le français, c'est une langue exigeante, c'est ta langue maternelle, mais quand même, si tu mènes pas une bataille pour t'assurer que le maximum d'outils vont te maintenir en bonne santé linguistique, là, la confrontation, la connaissance des deux langues peut à la longue faire qu'une domine.
Ce qu'on voit dans cette enquête-là, c'est que la réaction viscérale que les gens peuvent avoir à se faire accueillir avec un bonjour aïe, ça varie de façon incroyable avec l'âge. Je veux dire, chez les 55 ans et plus, c'est 53 % des répondants qui ont des sentiments négatifs quand ils se font répondre, quand ils se font accueillir avec un bonjour aïe. Après ça, les plus jeunes, là, 35-54 ans, 47 % ont des sentiments négatifs. Quand tu tombes chez les 18-34, là, c'est 32 % des 18-34 qui disent qu'ils ont un sentiment négatif.
Je comprends pas pourquoi tu dis bonjour. Aïe. Y a-t-il quelqu'un qui comprend pas le mot bonjour? Le tabou parler mandarin, là, tu...
Je suis bien d'accord avec toi, Paul. C'est ça que je l'ai dit. Tu vas dans un pays étranger, tu vas en Russie, tu vas en Italie, tu te fais pas accueillir généralement avec un hi en plus.
Non, mais en France, tu parles français puis tu te fais accueillir en anglais.
Oui.
Ça, c'est quelque chose qui me rend dingue, c'est ça, là.
Ouais, mais ça, c'est français.
Non, je comprends, mais tu sais, c'est...
Ah oui, ça, c'est charrier. Hein? C'est charrier.
Mais juste finir là-dessus, là, OK? Et 32 % des 18-34 disent éprouver des sentiments négatifs quand ils se font accueillir avec « bonjour, aïe ». Dans cette groupe d'âge-là, 18-34, il y en a davantage, 40 % qui sont indifférents. Ils s'en foutent. Et ce que ça dit, c'est que le combat pour le français... Pour ces gens-là, pour ces jeunes-là, il est gagné. Puis je le sais là, qu'il y a plein de baby-boomers qui vont sauter dans les rideaux quand je dis ça. Mais c'est la réalité. Chez les jeunes, c'est pas un enjeu. On sent pas que le français est en péril. On sent pas que c'est un problème de se faire accueillir avec « bonjour, aïe ».
Oui, c'est ça. Ceux qui ont 50 ans et plus, parce qu'ils ont connu la Rhodésie. Ben oui. Ils ont connu le moment où tu pouvais pas aller à l'ouest de Saint-Laurent sans absolument te faire parler en anglais tout le temps, et c'était méprisant. Donc, ils ont mené cette...
Mais tu peux être maire d'Amstead sans parler français.
Tu peux être maire d'Amstead. Ben, c'est encore dans l'ouest. Il y a certains endroits où l'accueil doit pas être très chaleureux quand tu t'exprimes en français. Je suis sûr que le mépris existe toujours dans certaines parties de la ville. Je veux juste en revenir au fait que tu dis qu'il y a une sorte d'indifférence et le problème, il est là. C'est-à-dire que les gouvernements, parce que ce n'est plus populaire, c'est plus rentable au niveau électoral, ont quasiment abandonné. Puis on le voit avec l'Office québécois de la langue française. Là. La madame qui dirige ça maintenant a dit « j'ai été nommée récemment », incapable de faire la synthèse des 9 études qui ont été publiées, incapable de dire « voici ce qu'il faudrait faire ». J'espère qu'un jour, ils vont accoucher de quelque chose, ce gouvernement-là. Parce que si, actuellement, ils vont dans le même sens de « n'intervenons pas parce que c'est pas si pire ». C'est pas vrai. Le français au Québec, ça sera toujours un combat qu'il faut mener avec beaucoup d'intelligence mais beaucoup de respect pour l'utilisation de plus en plus nécessaire des autres langues, dont l'anglais.
Pierre, bien d'accord avec toi, et moi je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ce que je constate, c'est un peu comme pour l'appui, à la souveraineté chez les jeunes. Le combat souverainiste, comme le combat de la langue française, c'est pas un combat qui mobilise les jeunes Québécois.
Merci, on vous retrouve demain, 8h, presque 55. La 13.